Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h, passé de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Souvenez-vous de ce nouvel horaire. À compter d'aujourd'hui, les experts, c'est en direct de 9h30 à 10h30. Tous les jours, en direct sur l'antenne de BFM Business. Je suis toujours avec Valentine Hennouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord et membre des économistes atterrés. Et Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. On va parler, j'allais dire d'une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle finalement ou pas. Mais aujourd'hui, lundi 4 mai, c'est le jour de libération des actifs. Ce sont deux économistes qu'on connaît bien sur l'antenne de BFM Business. Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'entreprise, et Maxime Sbahi, auteur des Balançoires vides, un ouvrage que je vous recommande sur les conséquences du choc démographique que nous vivons entre baisse de la natalité et vieillissement démographique. C'est l'une des révolutions majeures qui va façonner notre pays dans les prochaines années. Ils commettent tous les deux un article aujourd'hui dans un média que je veux citer aussi, Les Électrons Libres, lel.media, Les Électrons Libres. Allez consulter ce nouveau titre de la presse absolument passionnant. Ils ont calculé ensemble ce jour de libération des actifs. Ils ont pris le travailleur français moyen qui touche 2 200 € par mois et l'ensemble des cotisations et salariales et patronales, car elles pèsent sur le travail toutes les deux, que le salarié paye pour financer les retraites. Si on y ajoute les dépenses de santé des seniors, on arrive à 40, près de 40%, 37% exactement, de prélèvements sur les fiches de paye pour la solidarité intergénérationnel, un montant qui a doublé depuis les années 70. Dans les années 70, on se libérait le 27 février. Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Dany Lang.
Alors, je suis pas fan de cette manière de poser les choses. C'est une manière de poser les choses qui, à mon avis, est pas très honnête, parce que on fait comme si déjà tout ça c'était des prélèvements, que ça partait, que ça revenait pas dans l'économie. Il faut pas oublier qu'il y a un circuit économique, que nos retraités consomment, qui participent au fonctionnement du circuit. Il faut pas oublier non plus qu'il faut pas confondre cotisations et taxes, d'accord, même si les taxes elles aussi repartent dans le circuit économique.
Non, on parle bien uniquement des prélèvements dirigés vers le financement des pensions et des dépenses.
C'est des cotisations sociales, c'est du salaire différé, nous aussi on cotise pour plus tard bénéficier de la retraite. Cela dit, le vrai problème derrière tout ça, même si je suis pas du tout d'accord avec cette manière de poser les choses, le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'il y a plus assez d'actifs pour financer nos retraites. Alors, quelle est la solution? Certains disent les fonds de pension. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas opposé à une petite dose, genre pré-fonds pour tout le monde. Ceci étant dit, ça ne suffira pas. Et puis, par ailleurs...
Non, mais ça peut permettre d'alléger. Il n'est pas question, encore une fois, de supprimer le système de retraite par répartition, mais d'alléger le poids
d'alléger,
de plus en plus lourd.
Ça dépasse
une sorte de symbole qui permet de le montrer,
ça
dépasse sur les actifs.
Ça déplace le poids ailleurs. Au lieu de payer des cotisations pour demain, je vais placer ça dans un fonds de pension... ce sera pas forcément très très lisible pour tout le monde, et les fonds de pension n'ont pas que des aspects vertueux. Tout l'argent qui est allé dans les fonds de pension aux États-Unis, ça a pu financer des choses, ça a pu en détruire aussi beaucoup, avec des exigences de rentabilité court terme qui sont des fois et souvent même délirantes. 15 à 25%, c'est pas raisonnable. Donc tout ça pour dire que cette manière de poser les choses me paraît extrêmement problématique, comme si c'était des prélèvements, comme si ça sortait de l'économie. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est qu'il y a plus assez d'actifs.
Personne n'explique absolument pas que ça sort de l'économie. Hein. Ils expliquent simplement
ça
nous donne une bonne idée du poids des pensions sur
On travaille 4
des
mois pour les autres, ça me paraît... quand on met dans la pension, on travaille aussi pour d'autres.
Dany, un peu quand même.
Ouais.
Guillaume Poitrinal.
Oui, c'est la solidarité, hein, je veux dire, ça marche quand même comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelque part un espoir de toucher une petite retraite, mais enfin, nous, on sait très bien que notre retraite, de fait de la pyramide des âges, elle va avoir rien à voir avec ce qu'on aura cotisé. Enfin, c'est évident. Donc, moi, je pense que les fonds de pension, c'est probablement une des solutions. D'ailleurs, en fait, ils existent en France. Ça s'appelle l'assurance vie. En fait, les Français considèrent l'assurance vie. Ils accumulent l'assurance vie chez Amundi en se disant, bah, pour mes vieux jours, au moins, j'aurai un matelas. Et c'est ce qu'ils font. En fait, c'est un réflexe. Alors, c'est pas
organisé. Ceux qui peuvent.
Tu vois, c'est mal fiscalisé, etc. Mais enfin, ça fait quand même à la fin des gros montants. Le problème, c'est que cette assurance vie, elle va financer le déficit public plutôt que de financer les entreprises. Et c'est probablement le sujet. À mon avis, c'est ça le sujet. Mais sur le fait, c'est évident que il va falloir à la fin quand même pour balancer tous ces régimes, ou accepter que les retraites baissent, ou alors allonger la durée du travail. Enfin, il y a assez peu d'autres solutions. Si, on est aujourd'hui super taxé.
Le niveau de cotisation, comme en Alsace, où on paye un peu plus.
Mais quand on voit, Dany Lang, qu'on est à près de 4 euros sur 10,
non, mais
vous ne trouvez pas qu'il y a une petite démotivation pour ceux qui veulent travailler? Je comprends les jeunes, qui n'aient plus envie de s'engager, si la moitié de ce que vous bossez doit partir ailleurs.
C'est une manière de
voir. Je voudrais donner quelques chiffres pour illustrer ce déséquilibre démographique, pour bien qu'on l'ait en tête. Dans les années 90, on avait 2,5 actifs par retraité. Aujourd'hui, on est à 1,77. Et en 2070, on sera à 1,2. Donc la situation, et on voit qu'on est toujours surpris par le
déclin démographique qui s'accélère. La
natalité, c'est une surprise, et ça s'accélère. Donc ce problème,
la natalité,
oui. Donc c'est pour nous, je dirais, ça va être un sujet qui va être très très présent les prochaines années et qui va pas se résoudre. Il n'y a pas une solution. Il y a peut-être allonger un peu l'âge de la retraite, augmenter le niveau des cotisations. Mais pour moi, évoluer, je ne dis pas changer le système, mais évoluer vers une retraite par capitalisation, c'est un point important. Et pour moi, qui permettrait de répondre à un double besoin de nos économies. On a un sujet aujourd'hui sur nos retraites, mais on a un sujet aussi sur le manque de financement de nos économies. Oui. On parle de l'électrification, on parle de la digitalisation, on parle d'augmenter nos besoins sur la défense, mais comment va-t-on financer tout ça? Et quand on regarde aujourd'hui la dette de l'État français, on peut se dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre budgétaire qui est réduite. Donc pour moi, cette retraite par répartition, c'est aussi une manière de répondre à ce problème où on manque de financement sur les économies. Si on regarde aujourd'hui les fonds de pension aux États-Unis, alors, je ne sais pas si les exigences de rendement sont aussi élevées que les chiffres que vous avez donnés.
Mais non, parce que c'est un blend. Tu vois, ils prennent du 1% comme ils prennent du 20% suivant les risques.
Mais on n'est pas forcément sur du 20-25. Je pense
c'est une moyenne pour les chiffres.
Mais
pour
si on regarde aujourd'hui, pour moi, le profil des actifs d'un Européen, globalement, à 70%, il est sur de l'immobilier et ses actifs financiers sont essentiellement sur du dépôt, des actifs peu risqués. Un ménage américain, il est, je caricature un peu, mais à 70% sur des actifs financiers et l'essentiel, plus de la moitié de ses actifs financiers sur des actions. Si. Donc, on est sur des économies où les montants qu'on investit à risque ne sont absolument pas les mêmes. Et résultat, on voit... Zone euro, on a des problèmes d'investissement, problèmes de gains de productivité. Et aux États-Unis, ils ont des gains de productivité. Donc pour moi, ce débat sur les retraites, il doit vraiment être pris de façon plus large. De toute façon, on est face à un vrai sujet. Donc on va pas pouvoir l'éviter. On va pouvoir le retarder. Mais plus on le retarde, plus on va se prendre un mur. Et aussi, c'est besoin de financement dans l'économie. Donc pour moi, le sujet, il doit être abordé sur ces doubles aspects.
Et moi, j'ai jamais compris pourquoi les syndicats français... Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dirigé une entreprise qui était franco-hollandaise. Et donc, j'avais, évidemment, dans le capital de cette entreprise, au CAC 40, j'avais des fonds de pension hollandais importants, qui étaient mes premiers actionnaires, et qui se trouvent être dirigés par les syndicats. C'est quelque chose qui est totalement ahurissant pour les Français, parce qu'en fait, le conseil d'administration, ce sont essentiellement des syndicats et 2-3 personnalités qualifiées. Je les ai reçus, puisqu'ils voulaient voir à quoi ressemblait leur placement, donc on leur a fait faire le tour des immeubles et des actifs d'Unibail-Rodamco. J'ai été étonné par la qualité des questions, qui étaient encore meilleures que celles que j'avais des analystes financiers qui suivaient le cours de bourse. Je peux vous dire que si on arrivait, ce miracle, à intéresser... la CFDT, la CGT, FO et les autres, à créer des fonds de pension pour pouvoir justement orienter. J'ai eu des très bonnes questions, j'ai eu des questions de gauche. Comment est-ce que vous traitez vos salariés? Dites-moi combien de jours de vacances vous avez? Qu'est-ce que vous offrez aux femmes qui sont enceintes, etc. J'ai eu des très bonnes questions sociales à cette occasion-là. J'ai eu des questions sur l'environnement à cette occasion-là. Mais la gouvernance de ces fonds de pension a été assurée par les syndicats. Et moi, je pense que c'est la grande révolution qu'il faudrait faire, que nos syndicats acceptent de créer des fonds de pension.
Il y a des problèmes avec les fonds de pension. Parce que les fonctionnaires sont les seuls à bénéficier de fonds de pension, d'ailleurs,
en France,
au travers de l'ERAFP.
C'est pour ça que moi, je dis, je ne suis pas opposé à l'extension de...
C'est de la richesse collective,
choses,
non
comme préfonds, mais il ne faut pas non plus... Préfonds, ça reste assez opaque, mine de rien. Hein. Quand vous essayez de creuser, même en économiste éclairé, c'est
pourquoi,
très compliqué. J'en sais rien, il faut leur poser la question à eux, ce n'est pas moi qui gère. Donc,
qu'est-ce qui est opaque?
Qu'est-ce qui est opaque? Quels sont précisément les investissements auxquels ils procèdent? Quels sont les niveaux de risque de ces différents investissements? C'est très dur de creuser, j'ai essayé un peu, c'est quasiment impossible. Vous prenez un peu le contre-exemple parfait avec la Hollande. C'est vrai que quand vous discutez avec des gens qui sont fonctionnaires aux Pays-Bas, ils sont beaucoup moins inquiets de leur fonds de pension que les gens du secteur public américain. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de prendre la voie américaine. Cela dit, je ne pense pas que les fonds de pension soient la réponse à tout. La vraie question, c'est le nombre d'actifs. Quand on a 5,6 millions de personnes qui sont au chômage A plus B plus C,
oui.
À mon avis, la priorité, c'est celle-là.
À travailler davantage de monde,
vraiment,
c'est sûr.
C'est de réfléchir, non pas à travailler jusqu'à 80 ans, mais de réfléchir à toutes ces personnes, soit qui travaillent, mais qui ne travaillent pas à temps plein, qui souhaiteraient travailler à temps plein, soit à toutes ces personnes qui sont au chômage involontaire, et on ne va pas me dire que 5,6 millions de personnes sont à la maison pour profiter de leur canapé. À mon avis, c'est la question clé. Ça ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir à la natalité.
On le répète à longueur de temps.
Réfléchir à la natalité, donner des perspectives. C'est plurifactoriel, comme vous disiez.
Oui.
Mais je ne pense pas que les fonds de pension soient le remède miracle. Et puis, un peu de fonds de pension, c'est bien. Trop de fonds de pension, ça pose le problème de l'instabilité financière.
Quand la bourse s'effondre,
il n'y a pas de retraite. Donc, il faut faire très attention où est-ce qu'on met son argent.
HK réagit à Financier sur mon compte Twitter qui nous dit que l'objectif de rentabilité des fonds de pension américains publics, souvent comme CalPERS, tourne autour de 6,8 à 7%
c'est déjà beaucoup.
Alors,
c'est déjà
moyenne, on n'est pas
non,
à 15,
mais
oui, non, mais CalPERS,
les fonds de pension hollandais visent 5-6% à peu près de rendement, ce qu'ils arrivent à faire tranquillement sur très longue période.
C'est trop.
Et évidemment, ils font comme le font toutes les banques, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous avancez de l'âge de la retraite et la liquidation de vos droits, et moins vous êtes exposé au marché à risque, et plus vous êtes sur des marchés de taux. Voilà.
Etc.
Donc, il y a des techniques pour justement lisser. Alors ça, c'est leur grande hantise, hein, fonds de pension, pour justement lisser les effets de volatilité des marchés. Ça,
oui, mais aux Pays-Bas, ils y arrivent très bien. Aux États-Unis, j'en suis pas convaincu.
Mais regardons le modèle hollandais.
Choisissons le bon modèle. Alors, dans ces cas-là, vous parliez de travail, Danny Lang. Le travail des jeunes, notamment, on le sait, hein, c'est à la fois les seniors.
C'est ça.
Donc, repousser l'âge de la retraite et le travail des jeunes, effectivement, taux d'emploi de nos jeunes est inférieur par rapport à la moyenne européenne. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de la politique qui a été menée depuis 2018 sur les apprentis. Une politique qui a été saluée comme une grande réussite d'Emmanuel Macron, puisque effectivement, on est passé de 300 000 à quasiment 1 million d'apprentis en 2024. Oui, mais à quel coût?
C'est
la question que je voulais poser ce matin. Le coût de l'apprentissage qui est passé entre 2018 et 2024 de 6 à 16 milliards d'euros. Bruno Coquet de l'OFCE ajoute même, avec les allègements de charges,
24 milliards d'euros. C'est beaucoup
pour
trop.
L'apprentissage.
C'est beaucoup trop.
Est-ce que c'est le bon chiffre? Est-ce que c'est...
Oui, à
c'est
mon
trop.
Avis,
vous
c'est
dites
le...
c'est trop.
C'est le bon chiffre. Après, il faudrait aller creuser, etc. À mon avis, c'est le bon chiffre. Cette politique, je dirais pas ça de beaucoup de choses chez Macron, va dans le bon sens. Le problème de cette politique, c'est qu'on a permis au niveau bac plus 4, bac plus 5 de l'appliquer. Donc, on a eu un fort effet d'aubaine, c'est-à-dire des choses que les entreprises finançaient de toute manière sont maintenant financées par l'État. Et on a ce problème. Les universités ont un problème budgétaire parce qu'on les a mises à sec. Donc, elles essayent de compenser par l'apprentissage, etc., etc. C'est l'argent de l'État. Moi, j'ai des apprentis en cours. C'est des gens qui sont chez la Société Générale, BNP Paribas. Pourquoi est-ce qu'on va financer ces apprentis-là? À mon avis, la vraie question, c'est pas l'apprentissage, c'est une tendance positive, vraiment. Mais premièrement, c'est le fait qu'on ne laisse plus les CFA décider si vraiment...
Les centres de formation des adultes.
Les centres de formation des apprentis décider s'il y a vraiment besoin que l'État finance. Et deuxièmement, qu'on finance massivement les Bac plus 3 à Bac plus 5. C'est ça qui coûte cher. Donc, il y a plein d'écoles de commerce... Il y a plein de centres de formation.
On finance ou on définance le bac plus 3 à bac plus 5? Parce que non, c'est un peu ça la question qui se pose.
Aujourd'hui, c'est
qu'on n'a pas financé.
Il faut
des jeunes
les
qui
définancer.
Été, voilà, les définancer.
Le coût est lié à ça. Les entreprises ont de toute façon besoin de ces gens. Elles vont de toute façon payer pour ces gens. Il n'y a pas de raison que l'État paye pour cela. Par contre, pour ceux qui sont en dessous, c'est tout à fait pertinent. Il faut continuer dans cette voie, d'après moi.
Et qui ont moins bénéficié, a priori, des aides, selon les études.
La France, c'est un pays formidable, où on vous explique qu'un allègement de charge est un coût. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de dire, tiens, il y a trop d'impôts, je baisse les impôts, on vous dit, non, je baisse pas les impôts. J'allège l'impôt et je compense, et donc c'est un coût. Dans n'importe quel pays du monde, quand on baisse les impôts, on baisse les impôts. Si on dit sur les apprentis, j'ai décidé de prendre moins de charges sociales, on prend moins de charges sociales. Eh bien, nous, en France, on ne dit pas ça. Nous, en France, on dit, vous auriez dû payer tant, vous allez payer moins, et le moins, eh bien, en fait, c'est un coût.
Alors, c'est de la subvention pour les apprentis. Attention, il y a des allègements de charges.
Quand est-ce qu'on va accepter de baisser les charges dans ce pays? Quand est-ce qu'on va accepter de baisser les impôts dans ce pays?
On parle de dépenses fiscales quand on allège l'impôt.
Plutôt que de dire, et de faire peser sur le budget de l'État in fine, en fait, des choses qui... C'est absolument ahurissant. Il faut éduquer les Français, à mon avis, sur, il y a un moment donné, un allègement de charges, ce n'est pas une dépense pour l'État. C'est peut-être de l'argent qu'il aurait peut-être dû... Mais la plupart du temps, il n'y aurait pas eu cet argent. C'est une perte de chance, mais il n'y aurait pas eu cet argent. Donc, dans la plupart du temps. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on
a là?
Mais
pourquoi on fonctionne comme ça? Alors, c'est quoi? C'est politique? C'est...
Mais parce qu'on a décidé que le régime social, il fallait surtout rien enlever aux régimes sociaux, et que donc, c'est l'État qui ferait la différence, et donc, c'est toujours le budget de l'État qui fait la différence, et les régimes sociaux, eux, ils continuent à empocher les sous. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu faire les réformes, probablement, quand même, malgré tout, sociales, qui devront un jour être effectuées. Donc, il y a un jour, il faudra faire de la vraie baisse de charges et de la vraie baisse d'impôts et arrêter cette espèce de tartufferie là, qui consiste à dire que les allègements de charges sont de la dépense. C'est pas de la dépense. Moi, je suis désolé, c'est pas de la dépense. Dans ce truc-là, dans ces dépenses, il faut savoir qu'il y a aussi le coût des CFA. Il y a 4 à 5 milliards du coût des CFA. Alors, je vais vous dire, les gamins, s'ils n'étaient pas dans le CFA, ils seraient où? Ils seraient à l'université, on dirait c'est zéro. On dirait c'est zéro. Et là, on dit, ah, l'apprentissage, ça coûte cher parce que c'est le CFA. Non, mais voyez le côté, l'absurdie dans laquelle on vit dans ce pays. L'absurdie totale. Évidemment que les CFA, c'est de la formation. Évidemment que c'est pas un coût. Heureusement, l'éducation, elle est gratuite depuis Jules Ferry. Non, mais oh, dans quel pays on vit? Alors on dit en fait.
Non, mais le CFA, c'est 10 milliards de coûts supplémentaires. On ne parle pas du coût des CFA. Il y a des universités.
Il y a des étudiants.
Il y a des milliards de CFA
qui sont financés.
Non, je suis. Attends, laissez-moi finir. Je suis dans le démontage de cet article à charge d'un journaliste qui a mal travaillé des Échos et qui essaye de faire de la presse à sensation sur le dos des entreprises. Donc, non, je suis désolé.
Alors moi, je l'ai lu et je le trouve absolument très bien informé.
Je les prends pas. Oui, c'est ça, c'est le corporatisme. Les allègements de charges, on les prend pas. Les CFA, on les prend pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste 6 000 euros à chaque fois que t'embauches. D'accord? Ok. Dans le truc. Et puis ensuite, c'est les entreprises quand même qui payent le gamin, quoi. Tu vois? Donc, il y a quand même à un moment donné un peu de pouvoir d'achat qui arrive, etc. Et en plus, les entreprises, je rappelle qu'elles vont le former, elles vont l'encadrer, elles vont lui faire une formation pour être à échelle, etc. Le gamin, il va repartir avec des formations qui vont lui permettre de trouver un job et à la fin, ça marche. Alors là où Dany a raison, c'est qu'en effet, c'était pas fait à l'origine pour des diplômés de l'ESSEC ou de l'ESCP ou
c'est
de Dauphine ou de
dans le truc. C'est ça qui coûte cher et l'article est bien fait.
Il est très bien fait. On est d'accord là-dessus. Mais ça, c'est juste à réexpliquer, à recaler la mesure. Mais la mesure, elle est excellente. Et ça fait pas... Attends, dans le million d'apprentis, je voudrais bien savoir combien il y en a, si tu veux, là-haut, de surdiplômés.
Mais c'est ça qui coûte cher.
Mais c'est la majorité.
Mais c'est ça, c'est la majorité.
Et c'est très bien expliqué dans le papier
c'est très bien expliqué,
de ma consoeur
oui.
dans les Échos, justement. C'est que c'est majoritairement les Bac plus 3 à Bac plus plus 5
qui coûtent cher, bénéficié alors
de subsides. On ne parle pas du financement.
C'est un effet d'aubaine.
En tout cas, ramenons déjà à juste proportion ce que ça coûte réellement à la société.
C'est ce que propose Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail d'ailleurs, de faire 4 milliards d'économies sur ces 16 milliards aujourd'hui. Valentine Hénouze.
Après, je pense qu'il faudrait prendre un tout petit peu de recul. Hein, et pour moi, le financement de l'éducation de la jeunesse doit rester une des priorités. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les 4-5 prochaines années, c'est l'impact de l'intelligence artificielle Absolument. Sur le marché du travail. Et là, ça va être dévastateur. Je pense qu'on sous-estime vraiment l'impact sur l'emploi. Et notamment, là, on voit tout de suite et aujourd'hui l'impact sur les jeunes. Donc, même aux États-Unis, on voit que le taux de chômage des jeunes, il est en train de remonter. Les jeunes sont les premiers touchés par l'IA.
Donc moi, je recommande à tous les jeunes, aller vers le bâtiment. Ce sont des métiers bien payés. L'électricité, la maçonnerie, la charpente, évidemment, pour faire des immeubles en bois. Oui. Ce sont des métiers bien payés qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Elle va aider l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ce n'est pas là où il va y avoir des disparitions d'emplois. Donc moi, je pense, et très honnêtement, moi j'enrage sur mes chantiers de voir toute cette main-d'œuvre étrangère, si tu veux. Et je me dis,
mais vous trouvez des jeunes pour faire ces métiers difficiles?
Mais ce n'est pas un métier difficile. Il faut arrêter de penser que le bâtiment, c'est un métier difficile. Ce n'est pas un métier difficile.
C'est un métier usant.
Honnêtement,
il y a des métiers dire, dans le bâtiment.
Quand j'ai commencé, c'était difficile, je te jure. Mais maintenant,
non, il y a des métiers dans le bâtiment.
Ça a été, pour le coup, très régulé sur tout le confort sur le chantier. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est les champions, nous, d'Algeco, etc. Parce qu'on a des réglementations sociales et qui sont probablement très justifiées. Aujourd'hui, les ouvriers sont bien traités. Vous les avez vus d'ailleurs pour Notre-Dame. Ce sont des gens heureux parce que dans les monuments historiques, on a encore de la main d'œuvre.
Et dans
ces secteurs-là,
l'alternance fait énormément de sens. Hein. Dans tous ces secteurs du bâtiment, l'alternance fait beaucoup de sens. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'une partie théorique, il y a aussi une partie pratique.
Et puis après, une fois que vous avez été électricien chez Bouygues pendant un certain temps ou maçon, vous créez votre
entreprise.
Et là, vous faites fortune, Dany. Voilà. Et après, vous payez l'IFI. Et c'est formidable. Et vous êtes heureux.
Est-ce qu'on les prépare, nos étudiants, à l'utilisation de l'IA à l'université française?
Alors, c'est une problématique émergente, mais d'une autre manière, on a de plus en plus de problèmes à l'université de gens qui utilisent l'IA. Non seulement dans les devoirs à la maison, mais beaucoup de gens qui maintenant se font implanter des choses dans l'oreille pour tricher, transmettre le sujet. Là, on est confronté à quelque chose d'assez nouveau.
Et est-ce que vous avez des consignes, des guidelines pour gérer ces évolutions?
On essaie de faire face, mais ça n'a rien d'évident. Notamment, on essaie de mettre tous les téléphones de côté. Enfin, c'est pas évident. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à l'université, à l'impact sur l'emploi.
Ouais.
Si, on y réfléchit beaucoup. Hein. Moi, dans mes épreuves qui impliquent de la programmation informatique, je fais un oral maintenant. Parce que c'est la meilleure manière de vérifier que l'étudiant a appris des trucs. Alors qu'avant, je faisais pas ça.
Je suis pas tout à fait d'accord sur la massivité des baisses d'emploi. Il y a beaucoup il y a certains secteurs, hein, tu vois.
Les
fabricants de logiciels, les concepteurs de logiciels, etc. Mais moi, je vois aussi dans les entreprises maintenant un espèce de truc du style alors en fait, l'IA, il va falloir recruter des gens pour la rendre sécure, parce que c'est un énorme danger de fuite d'informations, de partage d'informations, etc. Donc, il y a tas de gens qui maintenant commencent à construire des murailles autour de l'IA pour la rendre sécure. Après, il y a toutes les formations pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on utilise l'IA et comment est-ce qu'on est plus rapide avec l'IA. Et après, il y a un niveau d'exigence. Là, je le vois maintenant sur les 3D, l'imagerie 3D. Il y a un niveau d'exigence qui est en train d'augmenter, mais considérablement. Et donc, on va en produire énormément. Et derrière chaque production, il y a quand même quelqu'un qui définit le cahier des charges, qui définit ce que veut, qui renvoie l'IA, qui parle à l'IA parce que il faut revenir vers l'IA. Donc, le niveau d'exigence. À la fin, je pense que ça fera pas un drame de chômage comme on est en train de le raconter.
C'est tout le débat du moment, Valentine News.
La clé, ça va être l'implémentation de l'IA dans l'économie. Ça veut dire qu'on va avoir besoin des investissements. Comment est-ce qu'on va diffuser cette IA dans l'ensemble de l'économie? C'est des besoins d'investissement à tous les niveaux et des besoins.
C'est ce qui a maintenu l'investissement du premier trimestre.
Et des besoins aux États-Unis, et des besoins de formation.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que la formation elle va être clé. On a une période charnière aujourd'hui où là, on doit vraiment mettre, pour moi, énormément viser sur la formation.
Ben oui. D'où l'université. 20 secondes pour terminer, Daniel.
20 secondes pour terminer. L'IA, j'en ai essayé pas mal pour l'instant. Moi, je peux vous dire, si vous demandez quelque chose à une IA et vous ne savez pas précisément où elle est, elle va vous sortir des bêtises et vous allez perdre
plus de temps que vous allez
gagner. Donc, très franchement, il y a beaucoup de travail à faire sur la formation des jeunes à l'utilisation et à la compréhension de l'IA. Parce que moi, quand j'utilise l'IA, je l'utilise pour du code. Elle me fait beaucoup de bêtises. Si vous n'avez pas l'œil, c'est mort.
Merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Valentine Hennouz, responsable de la stratégie TO chez Amundi. Dany Lang, enseignant-chercheur, membre des économistes atterrés. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2 pour cette émission passionnante.